Les limites, bien sûr, c'est la capacité à les mettre en œuvre d'abord. Cela demandera certainement des années et des années, puisque il va falloir un consensus au niveau des États nationaux, puisque nous n'avons pas pour l'instant de structure de gouvernance internationale qui pourrait imposer cela aux États. Donc une des limites, c'est bien sûr que si on attend la bonne volonté des États, on risque d'attendre assez longtemps. Et puis la deuxième limite, c'est que rien n'est dit pour l'instant sur les modes de gestion de qui va gérer de nouvelles ressources par ces taxations, qui va en être responsable et quelles garanties a-t-on pour que ces ressources soient bien utilisées?
Certains analystes affirment qu'une telle initiative ne peut être efficace que si elle s'accompagne de mesures permettant d'endiguer certains phénomènes qui gangrènent les États, tels que la corruption. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Oui et non. Je pense que ces deux problèmes peuvent être traités en parallèle. Et qu'on peut à la fois aujourd'hui, et je pense que nous le prouvons par le travail de notre association, on peut utiliser de l'aide même dans des pays où règne la corruption, parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser les canaux corrompus. Et par ailleurs, la lutte contre la corruption pose bien des questions sur la capacité des États à garder dans leur propre pays les ressources et éviter l'évasion fiscale, comment garantir une meilleure rémunération des fonctionnaires ou des salariés, des questions extrêmement complexes. Et la corruption, c'est pas simplement quelques personnes qui piquent de la caisse et qui envoient ça dans des banques en Europe, mais c'est un phénomène très complexe qui peut être combattu par des mesures qui sont à imaginer en parallèle des nouveaux flux financiers pour le développement.
Alors autre question qui se pose, est-ce que les bénéficiaires d'aide sont toujours les acteurs d'un processus de développement? Est-ce qu'il y a une certaine concertation en amont de la population?
Malheureusement, on regrette de voir que les processus de consultation, de participation des sociétés civiles sont toujours négligés, et trop souvent négligés en tout cas, et nous appelons les gouvernements du monde entier à faire davantage de place au dialogue avec les parlementaires qui sont démocratiquement élus quand c'est possible, quand c'est le cas, et surtout avec les associations, avec les milieux d'église qui sont aujourd'hui dans bien des pays des acteurs crédibles en termes de définition des politiques publiques et du bien commun.
On peut voir aussi derrière cette proposition un certain contresens, une problématique, puisque les aides au développement apportées par certains pays sont des aides qui sont apportées par ces mêmes pays qui par ailleurs livrent des armes au gouvernement.
Oui, les États sont pleins de contradictions et je suis sûr que même dans les États qui fournissent l'aide et qui en même temps vendent des armes, il y a des débats considérables en interne et des conflits internes aux États pour mener ces deux politiques en parallèle. Nous regrettons bien sûr qu'il y ait la poursuite de ces ventes d'armes, et une des mesures proposées est une taxation sur les ventes d'armes. Peut-être pourrait-elle être une manière de corriger, voire de limiter les ventes d'armes si elles devenaient trop chères.
Vous pensez que cette proposition qui a été faite donc par Jacques Chirac et Lula est tout à fait désintéressée?
Elle est surtout politiquement très payante pour les deux présidents et pour ceux et également pour le Premier ministre espagnol et le président chilien qui sont porteurs de l'initiative. Ils savent parfaitement que les délais pour mettre en place les propositions qu'ils font sont extrêmement longs et qu'eux-mêmes sans doute ne seront plus au pouvoir pour le faire. Donc c'est des annonces politiquement extrêmement rentables qui ne sont pas forcément immédiatement opérationnelles, ils le savent bien.